Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de télétravail. Ben oui, puisque vous savez comme moi que c'est devenu un petit peu à la mode forcée. Et en fait, je voulais vous montrer dans un article et dans cet enregistrement quelques bons conseils à appliquer pour réussir le télétravail et faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit plaisant. Alors pour cela, en fait, ben j'ai repris en fait quelques bonnes pratiques, des astuces, puisqu'en fait, je vois bien que le télétravail peut être vraiment quelque chose de très agréable, très plaisant, si on sait bien s'organiser et si on sait bien varier. Alors déjà, dans un premier temps, moi je dirais que le télétravail n'est pas la solution miracle. 100% de télétravail pour moi, en tout cas, et les personnes que je côtoie, c'est pas forcément l'idéal. Il faut se rencontrer de temps en temps. Par exemple, si jamais vous voulez travailler un jour avec une assistante pour la première fois, une assistante virtuelle ou un stagiaire en particulier, hein, ce qui est vraiment important, c'est de se rencontrer d'abord. Si vous prenez, moi c'est ce que j'ai fait une erreur une fois, hein, comme ça, en prenant une assistante à distance, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a bossé ensemble, j'avais commencé direct à lui donner du travail, et puis voilà, c'est parti. Et en fait, j'étais pas très satisfait. Ensuite, plus ça allait, moins j'étais satisfait. On commence à avoir pas des mauvaises ententes, mais en fait, j'étais obligé de refaire le travail, j'étais obligé de retravailler dessus, j'étais pas content. Parfois, je lui disais, faut faire ci, faut faire ça. On faisait un feedback par visio, mais c'était pas le top. Et donc en fait j'ai appris plus tard que il vaut mieux en fait travailler avec quelqu'un pendant par exemple une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, à côté, l'un à côté de l'autre, et en fait voir qu'est-ce qu'on aime bien faire, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. etc. pour éviter tous ces fameux non-dits, ces petites erreurs d'incompréhension, ces trucs au départ où on se rend compte que c'est pas bon, etc. etc. Et en faisant ça, en fait on capte un petit peu les habitudes les uns des autres, et après c'est énormément plus facile de travailler à distance. Donc moi, ma petite astuce, hein, c'est même en période de confinement, en période de télétravail, demander à la personne quand même d'être avec vous pendant une petite période, au moins 1 ou 2 semaines, pour en fait voir comment il faut travailler, et travailler l'un à côté de l'autre, avec les distances de sécurité, bien entendu. Si c'est quelqu'un qui est à distance, c'est bien plus compliqué, hein, je sais, puisqu'en fait, vous pouvez pas être en physique, mais c'est de travailler par exemple avec de la visioconférence et faire un point ou des choses comme ça, des points très réguliers. Ça vous permettra véritablement d'être beaucoup beaucoup plus efficace. Et aussi, un dernier point, c'est si jamais il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Si vous commencez à prendre une assistante ou un assistant à distance et que vous refaites les trucs, que c'est pas bien, etc. etc. C'est que ça va pas et ça va pas s'améliorer. Donc dites-vous qu'il faut soit en fait améliorer les choses en disant voilà ce qui va pas, comment il faut travailler, briefer mieux. Moi j'ai vraiment appris à briefer beaucoup beaucoup mieux des personnes avec qui je travaille à distance. Maintenant je fais beaucoup de la vidéo avec un enregistrement où je fais un ou deux exemples de comment il faut faire le truc, même si ça me prend un quart d'heure, même si ça me prend allez 10 minutes, mais au moins moi je me rends compte de la difficulté, je me rends compte du temps qu'il faut, et pour la personne qui regarde ça c'est beaucoup beaucoup plus clair. Voilà, donc ça c'est l'enregistrement, et pour cela j'utilise soit Camtasia soit Loom, qui sont des solutions très très intéressante pour faire de la visio à distance avec les équipes. Voilà, donc dans cet article on va revenir un petit peu plus sur le télétravail, et je vais revenir sur pourquoi en fait le télétravail c'est bien mais pas à 100%. Ensuite les bonnes pratiques pour que télétravailler à titre personnel soit un plaisir, et après un petit peu de conseils sur le travail à distance avec des collaborateurs. Voilà. Alors d'abord la première chose, moi je pense véritablement que il faut se voir. Il faut se voir. Les équipes ont besoin de se voir. Moi, par exemple, j'ai animé un webinaire pendant 2 jours, le CX Summit, sur l'expérience client. C'était vraiment intéressant. 14 ateliers, etc., etc. Et sincèrement, ça nous a fait du bien de nous voir, de discuter, d'échanger. On a pu parler de choses un petit peu plus personnelles, etc., etc. Et c'est vrai que ce contact physique, cette relation permet de faire en sorte qu'on partage un esprit d'entreprise, qu'on partage en fait une idée et qu'on est moteur. Si chacun est dans son coin, en fait, t'es plus membre d'une entreprise, mais en fait, tu fais un boulot, fais un job et t'as du mal à avoir comme ça une impulsion, et les gens vont s'impliquer beaucoup, beaucoup moins parce que c'est juste de l'alimentaire, etc. Donc moi, ce que je pense ce qui est intéressant, c'est 2-3 jours de télétravail par semaine, et le reste en fait en entreprise pour maintenir du lien entre les collègues. Voilà. Après, ce qui peut être intéressant, c'est bureau flex. Imaginons que vous ayez des difficultés économiques, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir avoir des bureaux. Faites les bureaux volants, les bureaux non attribués, donc dans des locaux qui vont être plus petits, avec des roulements, éventuellement des personnes qui ont des casiers ou des gens qui sont vraiment fixes. Mais comme ça, en fait, ça permet comme ça de réduire la taille des locaux. Alors, je connais certaines personnes qui ont même rendu totalement leurs locaux physiques, avec bien sûr les contraintes de bail, etc. Mais la personne que je connais a rendu totalement ses locaux. Et donc, en fait, ils sont passés en coworking. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des gens travaillent à la maison. Et en fait, ceux qui veulent peuvent aller en espace de coworking. Il y a pas mal d'entreprises, Flexas, etc., etc., qui proposent en fait des espaces de coworking où on peut venir là pour des réunions, pour des présentations clients. Et il y a certaines personnes qui, moi par exemple, hein, moi j'aime bien être au bureau. Je suis beaucoup plus efficace quand je suis au bureau. Et donc, j'aime bien comme ça être présent physiquement. Donc, ça permet véritablement de plus travailler aussi dans le coin, pas dans son coin. Parce qu'en fait, moi je le remarque, et je pense qu'on l'a remarqué aussi, le fait en fait de travailler à distance ne permet plus d'avoir ses liens avec ses collègues du bureau et ses collègues d'autres services. Et donc, en fait, on arrive à travailler comme ça dans un couloir, un petit peu comme dans un 400 mètres, un relais 400 mètres. Bah, vous êtes dans votre couloir, vous travaillez peut-être bien avec votre équipe, mais en fait, bah, voilà, à un moment donné, le passage de témoin se fait pas forcément bien avec des autres équipes. Les interactions informelles dans les couloirs, la pause café, etc., permettent de créer du lien et réduire l'individualisme. En fait, moi, je me rends compte de ça, c'est que quand les gens travaillent dans leur coin, il y a moins de compassion, moins d'empathie, moins de vision sur les difficultés qu'ils rencontrent, et en fait, ça crée un petit peu des animosités entre les équipes, surtout s'il y a des problèmes. Et donc, en fait, on arrive vite fait à un phénomène entre guillemets de bande. Moi, je l'ai observé pas dans l'entreprise dans laquelle je travaille, mais dans une autre entreprise où on faisait beaucoup de télétravail. On arrive souvent en fait à des phénomènes de bande. C'est-à-dire que dans un service, il peut y avoir une bande avec des gens qui se liguent un petit peu contre des personnes. Alors, pas tous, mais souvent une ou deux personnes. Ou alors, ça peut être même sur différents services où on tape sur les autres services tout le temps parce que ben on les voit pas, les côtoie pas, et on voit pas leur réalité. C'est un petit peu comme dans l'expérience client. Si en fait, on ne voit pas le client, on voit pas sa réalité, on voit où le client, il comprend rien, le client est un con, le client a pas compris ce qu'il fallait faire, etc., etc. Donc en fait, cet aspect vie ma vie, discuter, comprendre ce que font les autres, c'est vraiment important. Le dernier point, c'est la culture d'entreprise et la vision de l'entreprise. Certes, en fait, j'en parlais tout à l'heure, il y a des points mensuels ou trimestriels qu'on peut faire et qui donnent en fait la vision d'entreprise. Mais le problème, c'est que si chacun est dans son coin, et ben en fait, il fait son petit boulot, il fait son job et il n'a pas cette mission, il n'a pas cet engagement qui va y avoir. Et donc, c'est important de se recréer cette vision et cet engagement. Voilà. Donc il faut des moments de rencontre physique, il faut avoir des moments où se voir ensemble, que les gens prennent un café, etc., etc., etc. Voilà. Donc ça c'était le premier point sur le fait que le télétravail pour moi n'est pas la solution miracle. Deuxième point, c'est tout simplement pour que le télétravail soit un plaisir. Alors moi ce que je vous conseille de faire déjà c'est d'investir dans un bon matériel. C'est comme pour tout, un bon ouvrier travaille avec de bons outils. Pour moi en fait, il y a quelques must-have, comme par exemple en fait un bon micro-casque. Moi en fait, pour l'instant j'ai un micro-casque USB filaire Microsoft, un live chat. Bon, c'est un casque qui est un petit peu ancien. Là je vais le changer prochainement. Mais pour moi en fait, il faut vraiment investir dans un casque, allez, une minimum 50 €, si possible avec un réducteur de bruit, si vous êtes en télétravail dans des locaux, enfin des locaux chez vous en fait, où il y a un petit peu de bruit dans l'immeuble, où il y a des choses comme ça vous permet vraiment d'être beaucoup plus concentré. Et puis surtout, ça permet de, si vous êtes à deux, s'il y a des enfants, s'il y a votre épouse, etc., d'être beaucoup plus concentré et de pas être déconcentré avec la musique et les autres choses, ce que font les autres qui sont au téléphone. Parce qu'en fait, on se rend compte très bien, que en fait avoir un bruit de fond, avoir par exemple la télé en fond, avoir quelqu'un qui parle, en fait inconsciemment votre cerveau il fait tout le temps un petit switch entre les deux. Moi je m'en étais rendu compte quand je faisais du full télétravail, quand j'étais consultant il y a quelques années en full time, et bien en fait je mettais la télé en fond et je me disais non mais ce que je fais je vais mettre un petit documentaire en fond quoi. Et puis en fait je me rendais compte que j'étais beaucoup moins productif, j'allais beaucoup moins vite pour faire les choses et en fait ça a été confirmé par pas mal d'études, on n'est pas multitâche. On est uniquement un petit peu comme Windows, on passe d'une tâche à l'autre. Et en fait, le cerveau, il passe comme ça, tac, 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 d'une tâche à l'autre. Et actuellement, en fait, par exemple, je suis chez mes parents en vacances, là. Et donc, en fait, mes parents regardent la télé le soir. Moi, je suis à côté, en train de faire un peu d'ordi. Et je sais que je suis beaucoup moins productif parce que même s'ils regardent l'émission et moi, je la regarde pas vraiment, et ben un petit peu, il y a des interactions, il y a des machins. Et en fait, je suis beaucoup plus distrait par ça. Et donc, le fait d'avoir un casque vous permet de vraiment de vous isoler, et si possible avec un réducteur de bruit, ce qui permet de mettre le son moins fort. Voilà. Le grand écran, ça aussi, c'est vraiment indispensable. Alors moi, j'ai un grand écran 21 pouces, ça coûte 150 €, c'est vraiment pas cher. Je vous invite même, si possible, à faire un double écran. C'est-à-dire vous prenez deux 21 pouces et vous gardez en fait votre PC comme une station en fait hein, et vous allez vraiment gagner en productivité, en efficacité. Alors vous allez me dire, mais mon PC il me permet pas d'avoir deux écrans. Et ben en fait vous avez ce qu'on appelle les Easy Box. En fait c'est des petites box qui permettent de brancher sur un port USB une espèce de petite station qui permet ensuite d'aller brancher plusieurs ports USB et plusieurs types d'écrans. Vous pouvez mettre un écran type VGA et un écran de type HDMI. Et comme ça, en fait, vous pouvez avoir deux écrans avec un même PC. Et ça, c'est super pratique, c'est beaucoup plus confort. Avoir deux écrans par rapport à un seul, c'est vraiment important. Ensuite, le clavier. Là aussi, il faut vraiment avoir un clavier séparé et pas le clavier du PC portable. Pour taper au clavier, ça va être beaucoup plus simple. Vous avez ensuite le gros écran qui sera juste en face. Moi, vraiment, l'ergonomie que je recommande, c'est le gros écran en face de vous, le clavier qui USB ou sans fil hein, qui est devant vous. Sur la droite ou sur la gauche, donc soit droitier et gaucher, le PC portable en second écran pour passer des choses ou pour avoir un deuxième écran pour voir par exemple différents fichiers Excel ou pour lancer en traitement sur la droite. Enfin bref, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande fortement et ça permet de gagner en efficacité de manière vraiment drastique. Le siège de bureau, ça aussi, bon, on y reviendra un peu souvent, mais le fait d'être à la maison, souvent en fait, on est mal positionné. Par exemple, une erreur à ne pas commettre, c'est croiser les jambes. Croiser les jambes, en fait, c'est le mal de dos assuré. Il faut surtout pas croiser les jambes, il faut avoir, si possible, donc un petit repose-pied. Alors, c'est pas facile. Moi, ce que je fais parfois, c'est que je mets un petit bouquin. Alors, pas un bottin, parce qu'il n'y a plus d'annuaire, mais deux, trois bouquins ou un bouquin sous les pieds. Ça vous sert à deux choses. Un, de vous isoler du sol s'il fait un petit peu frais. Et deuxième chose, parce que moi je suis au rez-de-chaussée et donc en fait il y a du parquet mais ensuite c'est la dalle de béton, donc en fait il fait un petit peu froid. Donc avoir le bouquin ça vous, et les pieds dessus, ça vous permet d'avoir moins froid. Et d'autre chose, et ben en fait en étant légèrement surélevé au niveau des pieds, et ben vous verrez que la position est bien plus agréable pour télétravailler. Donc le siège de bureau aussi, bon voilà, c'est pour avoir un dos bien calé. Je vous conseille également le disque dur externe pour sauvegarder vos gros fichiers. Alors le disque dur externe, vous allez me dire, mais moi j'ai OneDrive, j'ai Google Drive, etc., etc. À quoi ça me sert ce disque dur externe? Parce que tout simplement, il y a des gros fichiers qui généralement tiennent pas sur des ordinateurs et puis échanger des trucs, c'est mieux d'avoir une seconde sauvegarde. Moi, je préconise là-dessus, puis sur le cloud en fait finalement c'est pas très écologique et c'est toujours un petit peu tendancieux pour avoir des problèmes. Donc moi ce que je vous conseille c'est toujours travailler sur OneDrive, Google Drive, Dropbox, peu importe. Et comme ça en fait vous avez une sauvegarde temps réel et vous avez différentes versions d'un même fichier, vous pouvez partager en un clic les données. Et en complément de ça, avoir le disque dur externe pour sauvegarder régulièrement toutes vos données parce qu'on ne sait jamais le piratage, etc. Ça peut toujours arriver. L'autre point, bien sûr, avoir un bon opérateur téléphonique. Moi, je vous conseille d'avoir une connexion 4G pour compenser parfois les problèmes de connexion Internet. Et je vous conseille en particulier Orange et Bouygues Telecom qui sont vraiment au-dessus de Free et SFR, vraiment, vraiment au niveau de la connexion téléphonique. Hein. Moi, par exemple, j'ai Free en abonnement téléphonique mobile. Et bon, c'est une catastrophe dans pas mal d'endroits pour à la fois la connexion 3G mais aussi capter les communications téléphoniques. Et quand je passe sur Orange, alors là, les gens me disent ah ouais, ah c'est beaucoup mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à avoir une bonne connexion si vous êtes pro. Ça coûte pas très cher, pas beaucoup plus cher en tout cas, et c'est vraiment plus agréable. On n'hésitait pas également à utiliser des bons outils de communication. Moi, j'utilise beaucoup Teams, Microsoft Teams, qui est inclus dans Office 365. Et c'est un bon outil qui permet de faire des réunions, qui permet de faire du partage d'écran, etc., etc. Autrement, vous avez aussi Zoom et Slack, hein, qui sont intéressants. Je suis aussi un gros fan de Zoom, qui est assez sympa, et qui permet quand même de faire pas mal de choses. Bien sûr, un CRM pour moi, c'est bien sûr indispensable si vous êtes dans une grande boîte à travailler à plus de 4 personnes, 4 commerciaux. Autrement, vous faites un wiki. Vous faites un wiki pour partager les informations sur le réseau. Donc un wiki, ça peut être des simples pages HTML que vous créez, etc. Mais bon, un CRM ou un wiki interne, c'est vraiment important. Alors les bonnes pratiques du télétravail. Bon, bien sûr, on va aller bien sûr dans les poncifs, mais bon, je les rappelle quand même, c'est avoir les horaires définis. Moi, par exemple, je me lève à 8 heures, comme si j'allais au travail, comme d'habitude, et ça me permet en fait de caler ma journée et d'être prêt tout le temps, etc., etc. Autrement, en fait, vous allez vous un petit peu fainéantiser, vous allez vous lever de plus en plus tard et vous n'allez pas vous mettre dans un mood de travail. Donc, s'habiller. Alors moi, personnellement, je mets une chemise tous les jours, mais parfois, je reste en chaussettes toute la journée ou ça arrive même d'être en jogging, mais au moins le haut, la partie haute, visible en visio, c'est toujours assez clean, quoi. Fixez-vous une to-do list par jour et par semaine. Et éventuellement par mois. Moi, je me dis toujours qu'il y a une action essentielle. À chaque fois, je me dis, ok Fred, aujourd'hui, quelle est l'action essentielle que tu dois mettre en place qui va vraiment permettre de générer du business? Ça, c'est quelque chose que j'essaye véritablement de définir. Et ça, c'est important parce que autrement, vous allez être tenté de faire ce que vous aimez. Vous allez être tenté de faire ce qu'on vous impose, les gens qui ont des réunions dans vos agendas, etc. Tandis que si vous vous dites, voilà, quelle est la chose la plus importante qui va faire progresser mon business aujourd'hui, là tout de suite, vous allez faire des choses qui vont vraiment compter. Parce que les gens, en fait, ne vous demandent pas de travailler des heures dans une entreprise. Ce qui fera la différence, c'est d'atteindre des objectifs et aider l'entreprise à atteindre ses objectifs. Donc, travaillez plutôt sur votre to-do list en disant, qu'est-ce qui va être essentiel aujourd'hui qui va apporter le plus de business? Alors, moi, j'utilise personnellement Excel parce que je trouve que c'est un outil simple et facile à utiliser. En plus, c'est fichier partagé, mais autrement, vous pouvez utiliser des outils comme Trello, OneNote, etc., etc. Alors, moi, OneNote, j'utilise pour autre chose. OneNote, j'utilise pour mettre un petit peu mes notes, voir toutes les actions aussi que je dois créer un petit peu plus au long cours avec des détails. Voilà. Ce qui peut être intéressant également, c'est tenir un journal de bord. Alors, il y a deux types de journal de bord. Alors, en fait, il y a le fichier classique Excel que moi j'utilise qui me permet de voir un petit peu comment j'optimise mon temps. Et donc en fait je me dis bah voilà qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai travaillé tant d'heures là-dessus, tant d'heures là-dessus. Et ça me permet de voir comment à la mi-journée j'ai dépensé mon temps, parce qu'on dépense vraiment son temps, et dire merde aujourd'hui j'ai pas fait grand-chose, ah faut que je me rattrape, et ça permet en fait de rattraper un petit peu sa demi-journée. C'est assez sympa. L'autre point, l'autre outil, c'est le 6 Minute Diary. Alors j'ai pas été très régulier sur le 6 Minute Diary. En fait, c'est un petit agenda dans lequel en fait vous indiquez ce que vous avez fait aujourd'hui, les moments de gratitude, les choses qui sont bien passées, les choses que vous avez bien aimées, les choses que vous pourrez faire mieux. Et c'est un truc qui est assez sympa, surtout si vous êtes dans une période où vous travaillez beaucoup, vous avez beaucoup de stress, vous n'avez pas forcément le moral. Et le 6 Minute Diary que vous pouvez acheter sur Amazon ou autre, hein, c'est vraiment un outil sympa, c'est un petit agenda que vous remplissez tous les jours et qui permet de garder du positif et savoir tiens, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Parce que parfois on se dit merde, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'avais prévu de faire ça, ça, ça et j'ai rien fait. Voilà. Bien sûr, le classique, ne pas trop surfer sur les réseaux sociaux et laisser distraire, ça c'est vraiment la plaie. Moi j'essaye d'éviter ça et en fait souvent ce qu'on fait, la tentation, c'est on bosse sur un truc et puis on se dit c'est bon, j'ai fini, petite récompense, je vais sur les réseaux sociaux. Alors ça c'est tout à fait logique et louable parce qu'en fait on a un niveau de motivation et d'énergie qu'il faut réaccumuler à chaque fois. Mais le problème c'est que si vous faites trop souvent ça, vous allez vous laisser distraire parce que 5 minutes sur YouTube, finalement se transforme en un quart d'heure et puis voilà. Donc évitez de trop surfer, essayez de travailler en sprint là-dessus. Moi en fait ce que je fais c'est que je me dis allez hop, je travaille là-dessus, je travaille là-dessus, et souvent c'est comme une envie de pisser. Si vous vous retenez, en fait finalement vous vous rendez compte que vous pouvez tenir encore un quart d'heure, une demi-heure de plus. Voilà. Donc voilà, pensez à ça, comme si c'était une envie de pisser. Alors calez vos réunions aussi en début ou en fin de journée. Ça j'essaye de le faire depuis 6 mois, grosso modo, puisqu'en fait le problème c'est que si vous n'êtes pas manager, et manager type directeur, vraiment un manager qui gère des équipes et qui doit vraiment prendre des décisions. Si vous êtes un manager comme ça qui doit prendre des décisions, c'est des réunions tous les 30 minutes avec des gens et prendre des décisions, tac, 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 tac. C'est ça en fait le rôle du manager, c'est d'avoir ces réunions de décision. Par contre, si vous êtes un opérationnel et que vous devez faire du travail, eh bien, il faut éviter d'avoir ces petites réunions qui viennent vous couper dans votre élan. Il faut toujours avoir des plages de travail longues, on va dire 2 heures. pour avancer sur des sujets. Parce qu'autrement, en fait, vous avancerez jamais, vous aurez plein de petites réunions, vous pensez d'un sujet à l'autre, il faudra préparer la réunion, etc. Donc c'est pour ça, en fait, qu'il est intéressant de caler ces réunions en début ou en fin de journée. Par exemple, vous faites une petite réunion à 9h, 9h30, et ensuite, comme ça, vous avez de 10h à 12h pour bosser sur votre sujet, quoi. Et pareil, 14h30, tac, jusqu'à, on va dire, 16h. Et puis après, vous faites des réunions à genre 17h, 17h30, 18h. Comme ça, en fait, vous êtes sûr de ne pas dépasser trop longtemps dans vos agendas et vous pourrez avancer sur vos sujets. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est bien et je vous invite vraiment à le faire. Et moi, ce que je fais, c'est que généralement, je cale dans mon agenda des plannings de travail. C'est-à-dire qu'en fait, j'indique des réunions avec moi-même dans mon agenda. Comme ça, les gens ne m'embêtent pas et j'ai des plages de travail pour avancer sur mes sujets. Féliciter également les personnes. Ça aussi, c'est un truc qui est important. En fait, ce qui se passe, c'est quand on est en télétravail, on n'a plus ce truc, bravo, tiens, c'est sympa ce que tu as fait, etc. Et souvent, en fait, que moi, je le vois, il y a plein de gens qui me sollicitent et à chaque fois, je dis, oh putain, encore cet emmerdeur. Oh putain, et on voit sa notification, ding, oh putain, merde, il va encore me demander quelque chose, oh putain, encore lui, etc., etc. Et vous savez que ce mec-là qui vous appelle, ce mec-là qui veut un appel téléphonique, vous dire, oh putain, il va me faire chier, quoi. Et donc, en fait, c'est pour ça que pour pas devenir cette personne-là qui est l'emmerdeur et qui fait tout le temps chier, qui demande des trucs, qui vous dit, oh putain, c'est la galère, félicitez de temps en temps les gens. Dites bravo, c'est sympa, bravo, tiens, comment ça va, etc. Alors le but c'est pas non plus de dire comment ça va pour comment ça va, mais tiens, bravo pour cette communication, bah tiens, c'est super pour ça, est-ce que t'as vu ça, une petite info, etc. Donc le fait en fait de pas être tout le temps un emmerdeur et quelqu'un qui vient apporter des mauvaises nouvelles, c'est vraiment important pour l'esprit et l'image que vous donnez aux autres. C'est vraiment important. Dites-vous ça, la dernière fois que vous avez contacter les personnes là dans la journée, est-ce que vous avez apporté des nouvelles positives ou vous avez que fait du négatif ou demandé des choses? Faites un petit way back, hein, retournez en arrière et dites-moi un petit peu si vous savez si ça vous est arrivé ou pas. Ça c'est vraiment important parce que on se rend compte que ça peut véritablement nuire à votre image. Vous êtes l'emmerdeur, tandis que si de temps en temps vous faites une petite blague, tiens un truc intéressant, tiens j'ai vu une newsletter sympa, tiens ça peut peut-être t'intéresser, blablabla, ou bravo à tes équipes, enfin voilà des choses comme ça. Vous allez pas être tout le temps l'emmerdeur, mais vous êtes quelqu'un qui va qu'on aura plaisir à voir, en fait, c'est ça. Alors, choisissez les activités aussi selon vos performances. Moi, je sais que le matin, je suis très bon pour tout ce qui est chiffres, Excel, etc., etc. Par contre, entre 14h et 16h30, bah, je sais que je suis moins performant. En fait, je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que bah, après manger, j'ai une petite période de digestion, etc., etc. Et en fait, j'arrive pas à faire des tâches vraiment complexes, j'ai du mal à me motiver, j'ai du mal à être performant, je fais des erreurs. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, j'essaye de faire durant ces périodes-là des actions qui sont plutôt simples ou des actions que j'aime. Par exemple, la rédaction de texte ou des trucs un peu stratégiques, de la réflexion. Et souvent, en fait, durant ces périodes qui sont un peu plus difficiles pour moi pour avancer, j'essaye de mettre de la musique. La musique, en fait, qui est un petit peu excitante. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de la musique qui fait détendre, qui fait de la détente, et de la musique au contraire qui va vous donner de la pêche. Et en fait, moi j'essaie comme ça d'avoir ces musiques qui donnent de la pêche. Et puis aussi, j'ai aussi des musiques sélectionnées selon certains tempos, certaines périodes. Par exemple, là actuellement, j'écoute un remix de Dimzak qui devient en fait un petit peu mon gimmick. Et souvent, j'ai des périodes qui sont avec des gimmicks. C'est-à-dire que quand bah, cette période de confinement, j'ai plutôt cette musique-là. Cette période des vacances, j'ai plutôt cette musique-là. Prenez une petite musique qui va être en fait, entre guillemets, le générique de début. Générique du début du boulot, générique du début de la journée, etc., etc. Voilà. Autre point, essayez d'être focus sur une action le plus longtemps possible. Il faut vraiment éviter de faire une chose, s'arrêter, faire une chose, s'arrêter. Par exemple, allez, je vais bosser là-dessus, je bosse 5 minutes, et puis, allez, tiens, je vais me faire un café, tiens, je vais aller pisser. Non, ça, en fait, c'est vraiment important d'essayer de travailler en plage de travail focus, continu, et surtout ne pas picorer d'aller d'un truc à l'autre. Moi, je sais que parfois, j'ai préféré faire une chose, c'est-à-dire quand mes filles rentrent à la maison à 18h30, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais une petite pause, et puis, ça m'arrive de reprendre le boulot plutôt à 22h parce que je sais qu'entre 18h30 et 19h30, l'heure habituelle où je travaille quand je suis au bureau, et ben là je pourrais pas parce que mes filles viendront de temps en temps, parce qu'il y aura du bruit dans la maison, parce que ceci, cela. Voilà. Petit truc aussi pour gagner du temps, préparer en fait des plats surgelés en avance pour pas passer à chaque fois une demi-heure, 45 minutes à vous dire mais qu'est-ce que je vais faire à bouffer ce midi quoi. Et en fait là, si vous avez des surgelés qui sont dans votre congélateur, quand vous faites de la bouffe, vous en faites pour 2, 3, 4, 5 jours et vous êtes tranquille, vous décongelez et c'est rapide à faire. Voilà. aussi un truc qui est important, c'est commencer par commencer. Souvent, en fait, quand on a une tâche qui est compliquée, c'est pas l'affaire qui va être le plus compliqué, mais c'est commencer. Et c'est pour ça, en fait, que souvent, la première chose qui est la plus importante à faire dans sa journée, c'est commencer à faire son boulot. Ou se dire, je fais une pause et je commence. Allez, hop. Et surtout, pas se dire, allez, je regarde un petit film, oh, tiens, j'écoute une petite musique, tiens, je vais me mettre une playlist. Non, commençons, 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 commençons. Donc, c'est vraiment essentiel. Le plus compliqué dans un travail, c'est commencer. Et moi, souvent, ce qui m'arrive, c'est que maintenant, je dis, maintenant, je consulte pas mes emails ou alors je les regarde vite fait sur mon téléphone, mais je réponds pas. Mais ce que je fais, c'est regarder vraiment s'il y a des urgences et après je regarderai ça. Mais commencez à travailler et là tout de suite vous commencez à faire les choses, ça avance et c'est souvent le premier pas qui est le plus difficile. Voilà. Enlevez tous les notifs également sur votre smartphone. Hein. Les notifs, par exemple, Facebook, WhatsApp, machin et tout ça. Virez-moi tout ça, donc toutes les notifications. Et en revanche, ce qui est super important de faire, et ça c'est ce que je fais depuis cette année, c'est que je mets des alarmes sur mon smartphone pour les réunions. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec mon système, j'essaye d'être très focus, très concentré sur mon sujet, et ça m'est arrivé de louper des réunions, ou louper le début, ou les gens qui me disent, hey Fred, t'es dispo là, on t'attend. Et je dis, oh putain, merde, c'est vrai, j'avais ce truc-là. Ou des réunions clients à distance, parce que là, vous êtes à distance, et parfois on enchaîne les réunions. Donc en fait, vous faites une alarme dans votre téléphone, et comme ça, en fait, vous êtes sûr de ne pas l'oublier, et ça va être vraiment très efficace. Voilà. Définir votre petite routine aussi, hein. Moi, ce que je fais, c'est que le matin, quand j'ai ma routine, eh ben, en fait, je vais me faire un thé, je vais me prendre 2-3 biscuits, je regarde mes news très vite fait, et hop, à 9h15, je commence à travailler. Voilà. Utilisez aussi plutôt le PC pour les outils de messaging. N'utilisez pas votre téléphone. En fait, il y a une tendance, moi aussi je l'ai eu à un moment donné, c'est d'aller sur mon téléphone pour regarder mes emails, pour aller sur les réseaux sociaux, etc., etc. Parce que je me dis, bah tiens, c'est plus facile, c'est plus rapide, c'est plus ergonomique. Oui, c'est plus rapide. Oui, c'est plus ergonomique. Le problème en fait de ce truc-là, c'est que vous allez tout simplement taper beaucoup plus lentement toutes vos actions. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez taper un message, vous allez taper ceci, vous allez taper cela. Et donc en fait, ça va vous faire perdre au final du temps. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est plutôt travailler sur PC. Moi, j'utilise la version web de WhatsApp. Et c'est vrai que taper sur PC, c'est beaucoup plus rapide. Je peux copier-coller des trucs. Alors que sur mon téléphone, eh ben, c'est beaucoup plus lent. Donc c'est vraiment important de faire ça, d'utiliser plutôt le PC que d'utiliser des applications mobiles pour aller naviguer sur Internet. Voilà. Et puis donc apprenez à dire non aux voleurs de temps. Si un collègue, voilà, un truc classique, si un collègue vous dit ouais tiens, est-ce que tu peux me faire ceci? Je dis bah, attends, je suis en réunion, je te finis un truc, je te fais ça tout à l'heure. Est-ce que ça peut attendre une demi-heure, un quart d'heure, etc. Le fait en fait de protéger votre temps et de dire bah non, moi je fais ça d'abord et je fais ceci, cela, fait que les gens vont pas avoir le réflexe de vous demander à vous systématiquement des choses parce que ils cherchent quelqu'un qui fera leur place ou quelqu'un qui a la bonne information. Voilà. Donc là, on était vraiment dans les bonnes pratiques du télétravail. Maintenant, je vais plutôt vous donner les petits conseils qui font que le télétravail est un plaisir. La première chose, c'est ce que j'ai vraiment apprécié moi, c'est la petite sieste de 30 à 45 minutes le midi. Alors, je fais exprès de faire vite à bouffer ou de prendre un truc surgelé qui est déjà fait. Et après, hop, je me prends un quart d'heure, je vais dans mon lit et tac, je me repose. Et sincèrement, c'est un truc qui est super agréable que j'aimerais bien retrouver en entreprise. Alors, ce que je fais, c'est que j'utilise également l'application RespiRelax, des termes d'Avelar. C'est un petit truc en fait qui permet de faire de la synchronisation cardiaque. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez respirer selon en fait un rythme un peu plus particulier, et ça permet en fait de se détendre et de réduire son stress, réduire son rythme cardiaque. Donc, vous pouvez regarder, hein, c'est une application mobile RespiRelax. Plus des termes d'Avelar pour regarder ça, c'est un truc qui est vachement sympa. Autrement, ce qui est vraiment bien aussi quand on est à la maison, c'est se faire livrer de temps en temps un petit plat au resto, enfin du resto. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes à la maison, vous faites livrer une petite pizza, vous faites livrer un bon petit plat. Sincèrement, c'est super agréable et ça permet véritablement d'être plus cool et se dire ah ouais, je suis comme bien à la maison quoi. Autrement, allez aussi chercher vos enfants le midi si vous avez des mômes. C'est vraiment bien parce qu'en fait, vous allez pouvoir comme ça partager un petit moment et vous le ramener après la cantine. Et sincèrement, c'est vachement sympa quoi. Prenez le temps aussi de prendre le temps. Prenez de temps en temps, par exemple, un après-midi de congé. Sincèrement, ça mange pas de pain. C'est vachement sympa. Vous faites votre petit après-midi comme ça, ou vous faites une balade, vous faites des courses, et vous allez chercher les enfants plus tôt, etc., etc., etc. Autrement, essayer de télétravailler au vert. Moi, en fait, par exemple, là, actuellement, je suis en Bretagne. Et c'est vrai que c'est un autre rythme de vie. Par rapport à Paris, vous n'êtes plus dans le train-train quotidien, vous pouvez faire une petite balade à la plage de midi, vous respirez un petit peu l'air, c'est beaucoup plus cool, c'est vraiment sympa. Moduler un petit peu vos horaires, comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai appris à moduler mes horaires. Ben, par exemple, quand j'ai un truc à faire le matin, ben, je dis bah tiens, je bosse une heure de plus le soir. Essayez de travailler comme ça dessus. Essayez de faire aussi une petite séance de sport de temps en temps. Alors là, j'étais un petit peu moins de mon côté actif là-dessus, mais de temps en temps, ben, avec mes filles, ben, on se fait une petite séance de sport avec Just Dance. Donc on prend YouTube, on met une vidéo de Just Dance et on se fait 3, 4, 5, 6 chansons. Et c'est vrai que c'est vachement agréable le soir, comme ça, après manger, se faire une petite séance de sport, c'est marrant, plus c'est fun. Faites des vraies pauses également, hein. C'est important d'avoir une vraie pause parce que parfois quand on est en télétravail, il y a deux extrêmes. Le télétravailleur addict, où en fait on est coupable d'être à la maison et on travaille, et en fait on en fait beaucoup plus. Ou alors la personne qui est un petit peu en dilettante parce qu'elle est à la maison et elle a du mal à retrouver des horaires de bureau. Donc essayez vraiment d'avoir des vraies pauses et dire voilà, je travaille, je fais une pause, je travaille, je fais une pause et puis je me prends un petit quart d'heure et de ne pas avoir toujours le fil à la patte, de devoir répondre à la messagerie au ding, 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 ding qui arrive tout le temps. Donc évitez ce petit truc-là et donc en fait, accordez-vous une petite pause. Vous avez le droit de vous éclipser pendant 10 minutes, un quart d'heure, quoi. Faites une petite pause tranquille, prenez un café, prenez un thé, ça vous fera du bien, etc. Le dernier point également, c'est faites des visios. J'en parlais tout à l'heure sur l'aspect un petit peu individualisme, le fait de moins travailler avec les personnes. Donc de faire de la visio, moi j'essaye de le faire systématiquement. Une visio, une visio, une visio. Et pas que d'échange par chat, parce que l'échange par chat, en fait, ben, tu tapes un truc, et puis ensuite, ben voilà, la personne répond, ensuite elle n'a pas compris, etc. Tandis que si vous faites une petite visio, c'est un moyen de prendre des nouvelles et d'avoir des conversations informelles, et puis voilà, de rentrer un peu plus dans le quotidien. Voilà. Le dernier point au niveau du management, là c'est le troisième point, essayez de faire des réunions d'équipe deux fois par semaine. Quand vous êtes tous en télétravail, et ben en fait il faut redonner du lien entre les équipes, il faut montrer un petit peu ce que font les autres et une petite réunion d'une demi-heure, voilà, chrono. Alors quelles sont tes priorités de la semaine, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui? Alors ne demandez pas aux gens de raconter ce qu'ils vont faire. C'est ça en fait le piège. Le piège en fait, c'est de dire voilà, ben aujourd'hui j'ai fait ça, demain je vais faire ça. Non, c'est de leur dire. Quelles sont tes priorités cette semaine? Qu'est-ce que tu vas faire? Et est-ce que tu as besoin de l'aide de quelqu'un? Voilà, un truc comme ça. Ça, c'est important de dire quelle est ma priorité. Alors, renforcer également les processus d'accueil des nouveaux collaborateurs. J'en parlais tout à l'heure pour les stagiaires, nos nouveaux arrivants. En tant que manager, ben, vous allez avoir des personnes qui vont arriver durant cette période-là, télétravail. Et ben en fait, il faut qu'ils se rendent compte un petit peu de ce qui se passe dans l'entreprise. Et donc ça veut dire qu'il faut, par exemple, les faire participer aux réunions à distance des autres services. Il faut en fait faire un point régulier, plus régulier, parce que vous n'avez pas les points informels à la cafétéria, vous n'avez pas les déjeuners de travail, etc., etc. Ce que je vous conseille aussi de faire, c'est le déjeuner de travail. Alors, le déjeuner de travail, c'est pas facile de la faire accepter par tout le monde, mais moi j'aime beaucoup ça. Le déjeuner de travail, c'est tout simplement, bah, vous allez demander à une personne de faire un déjeuner à distance, ou ça peut être un café à distance. Alors, le café à distance, c'est plus facile que le déjeuner de travail, parce que souvent les gens, quand ils font un déjeuner de travail, bah, ils sont avec leur conjoint. Mais tandis que si vous faites un café de travail, entre guillemets, bah, vous dites, bah, là tiens, on fait une petite pause café à 4 heures. Ou alors à 13h30, 13h30 de 14h. Et là, en fait, ben, vous discutez de manière un petit peu informelle. Vous pouvez utiliser par exemple Zoom ou Teams et diviser en fait les équipes en par exemple 3-4 personnes. Il ne faut pas en fait que ce café se retrouve avec par exemple 50 personnes, quoi. C'est pas possible. Non, si vous êtes 50 personnes, ben, vous faites 10 salles de 5. Voilà, vous faites des mini salles de 5 afin que les gens puissent discuter, ben, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu as besoin d'aide, voilà. Autre point, mener des enquêtes de satisfaction auprès des collaborateurs. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes à distance, en fait, ben, parfois les gens ils disent pas ce qui se passe. Ils ont des conditions de travail, mais ils n'osent pas s'exprimer. Ils disent, bah, de toute façon, c'est comme ça. Ils sont assez fatalistes. Non, il faut mener des enquêtes de satisfaction. Donc, par exemple, vous avez Eloquent qui propose en fait de faire des enquêtes de satisfaction auprès des clients, mais également des collaborateurs. Donc on n'est pas au baromètre social annuel, hein. On est vraiment dans une enquête sur comment ça se passe, est-ce que vous avez les outils, etc., etc. Comment vous qualifieriez-vous en un mot le télétravail? Enfin bref, voilà, vous essayez en fait d'identifier les salariés qui sont sur le bord de la route, qui sont dans les mauvaises conditions, essayer de résoudre des problèmes personnels et des choses comme ça. Donc une enquête, au moins une fois par mois, minimum une fois par mois, permet en fait de prendre le pouls et de savoir un petit peu comment ça se passe. Les réunions one-to-one hebdomadaires, alors ça aussi c'est important. Si vous êtes manager, faites une réunion one-to-one, mais pas la revue des projets, pas la revue du to-do list, mais une réunion one-to-one pour savoir un peu comment ça se passe. Alors bien entendu, le but c'est pas d'aller discuter alors comment ça va les enfants, etc. Mais voilà, comment ça se passe, comment tu te trouves dans ton poste, quelles sont les priorités, t'arrives bien à t'en sortir, est-ce que tu as besoin d'aide de ma part, etc. etc. On est pas une libre discussion, mais sur l'activité de l'entreprise, comment ça se passe. Donc ça, c'est vraiment important. Autre point, définissez pour chaque service et les collaborateurs une North Star métrique, c'est-à-dire une étoile du Nord. C'est-à-dire vous avez fixé un indicateur fort qui doit guider vos actions au quotidien. Ça peut être par exemple un objectif de chiffre d'affaires, sans aller par exemple au flicage. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Une feuille de temps. Non. Vous dire, bah voilà, l'objectif en fait c'est d'atteindre par exemple, je dis n'importe quoi, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc en fait, bah voilà, vous dites, voilà, pour l'objectif de 10 millions d'euros, voilà, on en est arrivé aujourd'hui. Actuellement. Et vous commencez là-dessus pour la réunion. Et comme ça, en fait, ça donne un indicateur. Et les gens diront, bah, est-ce que moi, ce que je fais, est-ce que toi, ce que tu fais, ça va nous permettre d'atteindre ces 10 millions. Voilà. Et grâce à ça, avec cette North Star métrique, vous allez vraiment réussir à faire en sorte que les gens soient tout de suite focus sur ce qui est le plus important. Donner de l'autonomie également aux collaborateurs en leur donnant des priorités. Chaque trimestre, bah, vous leur dites, voilà. Voilà ce que vous allez faire, hein, les priorités c'est ça, mais laissez-leur la possibilité de s'organiser, surtout s'ils sont en télétravail. Et aussi, donnez-leur l'autonomie pour réaliser une action originale qui leur plaît tous les trimestres. En disant voilà, ta carte blanche, qu'est-ce que tu veux faire un truc qui va te botter, un truc qui va vraiment t'intéresser, etc., etc. Voilà, ça peut être également aussi de confier des mini-projets. Par exemple, vous avez des collaborateurs qui sont là depuis des années, qui connaissent bien la boîte, et ils font leur boulot, etc. Le truc, c'est qu'en fait, ça devient un peu le train-train. Donc, en fait, pour impliquer les gens et faire en sorte qu'ils ne soient pas en fait des suiveurs, mais que ce soient vraiment des acteurs, ça leur dire, bah tiens, voilà, on va faire, par exemple, vous êtes 10 personnes, vous allez faire 3 groupes. De 3 personnes et en fait vous allez leur donner des mini-projets. Par exemple, si c'est dans la comptabilité, voilà, vous êtes 10 dans la compta, il y en a 3 qui sont par exemple comment optimiser les process, comment mieux travailler avec les commerciaux et les nouveaux outils, la GED, j'en sais rien, mettre en place une GED ou digitaliser les process, j'en sais rien, moi, un truc comme ça. Donc voilà, ou fluidifier les choses, etc. Vous avez 3 projets comme ça, vous mettez deux, trois chefs de projet, enfin, c'est pas des chefs de projet d'ailleurs, c'est des personnes qui travaillent là-dessus. Et vous dites, voilà le sujet, puis on se fait un point tous les mois, tous les trimestres. Les gens, ils ont le temps ou pas d'avancer, hein, selon leur agenda, leur planning, mais c'est vraiment quelque chose qui est super sympa à faire et ça permet de motiver les gens. Voilà. Faire des réunions aussi informelles par la direction, quand on est en télétravail, eh bien, il faut encore plus que la direction donne une visibilité sur ce qui se passe. Communiquer sur ce qui va bien, le chiffre d'affaires, mais également les problèmes, c'est important. Ça peut être par exemple une simple réunion Zoom ou Teams tous les mois où on dit bah voilà où on en est sur le chiffre d'affaires, voilà les nouveaux arrivés, et les nouveaux arrivés qui arrivent dans l'entreprise, eh bien, ils vont se présenter, bonjour, je m'appelle machin. En fait, ça vient remplacer les réunions d'information un peu plus formelles. Et là, en fait, le fait d'avoir une question-réponse à la fin, de pouvoir discuter avec un format d'une heure et demie max, ça peut être un truc assez sympa. Vous pouvez également aussi, si vous êtes dans une grande boîte, c'est proposer le format petit déjeuner. Le format petit déjeuner, c'est quoi? C'est une dizaine de personnes qui participent à un petit déjeuner avec le big boss et ils peuvent poser les questions qu'ils veulent. Il n'y a pas de sujet particulier, mais c'est vraiment pour un petit peu faire en sorte que les gens participent, posent des questions. Alors moi personnellement, je suis pas un gros fan de ça parce que souvent ça fait un peu lèche-botte de participer à ce truc-là. Je suis plutôt fan des réunions informelles hein, ou des échanges de direction entre directions via des réunions classiques. Voilà. Mais le mode petit déjeuner peut être assez sympa pour une direction qui veut garder le contact avec les gens, surtout si l'ambiance n'est pas facile. Être transparent également, il faut surcommuniquer quand on est en télétravail. Un email sur dire tiens, voilà, on a gagné tel client, tiens, on a gagné tel client, tiens, on a fait tel objectif de chiffre d'affaires, mais aussi ce qui va pas, tiens, on a un incident là-dessus, mais on travaille là-dessus, blablabla. Bla, bla, bla. Vous pouvez également faire des groupes Teams WhatsApp ou Telegram. Pour en fait que les gens travaillent mieux ensemble. Par exemple, si vous avez des commerciaux, ils peuvent avoir des groupes WhatsApp où ils peuvent se poser des questions s'ils sont bloqués par des clients, etc., etc. Parce qu'ils sont plus en fait l'un à côté de l'autre pour poser des questions. Donc travailler avec un groupe Teams, WhatsApp ou Telegram, ça peut être assez sympa. Également intéressant, éviter de sursolliciter les gens. En fait, quand on est en télétravail, on a un peu tendance à travailler un petit peu aux heures où on le veut. Et moi, ça m'est arrivé d'envoyer au début des emails à 21h, 22h, 23h, minuit. Et en fait, d'être un peu en décalage. Et c'est vrai que, d'une part, ça donne une mauvaise image parce que, putain, on dit le mec, il bosse jusqu'à 1h30 du matin. Putain, c'est incroyable ça. Enfin, incroyable, c'est bien ou pas bien, quoi. Et puis en plus, ça met une pression sur les autres. Si une personne reçoit un email le dimanche, elle se dit, oh, mais je suis obligé de répondre. Oh putain, le con, il m'envoie un email le dimanche, etc., etc. Non, ce que vous faites, c'est que vous avez en fait dans Outlook une possibilité en fait de faire un envoi différé. Moi, je le fais de plus en plus, c'est-à-dire qu'en fait, je travaille le soir, mais je fais envoi différé à partir de 8 heures. Ce qui veut dire qu'en fait, mes emails, en fait, ils partent à 8 heures, et pas à minuit, pas à 1 heure du matin, pas à 10 heures, pas à 9 heures, mais vraiment à 8h30, et comme ça, je respecte le temps de mes collaborateurs, voilà, et de mes collègues. Voilà, donc si je vous ai mis en fait dans l'article quelques petites questions en fait pour l'enquête de satisfaction des collaborateurs, je vous invite à aller faire un petit tour sur mon article de blog. Hein. Vous tapez comment faire pour que le télétravail soit un plaisir, conseil marketing, et vous trouverez en fait l'enquête classique sur les collaborateurs avec par exemple les demandes d'amélioration, le futur, etc., etc. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ces petites astuces sur le télétravail vous auront donné des idées, vous auront donné des petits tips pour aussi mieux travailler. Je vous ai mis dans l'article hein, aussi un peu d'humour sur le télétravail, vous pouvez le consulter, et avec trois vidéos assez marrantes de brut, etc., etc. Donc vraiment sympa. Et vous, hein, vous, moi je suis vraiment curieux de connaître vos petites astuces de télétravail. Comment faites-vous, vous, pour que le télétravail soit un plaisir? Donc je serais vraiment heureux de voir un petit peu ce que vous faites. Laissez-moi un commentaire là-dessus et si ce contenu vous a plu, partagez-le. Moi aussi, ça me fait plaisir d'avoir des partages et de faire en sorte que ce que je dis n'est pas si inintéressant que ça. Allez, à bientôt et bon courage à vous et bon télétravail.